L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors nous voilà pour une nouvelle émission où nous allons, au travers de cette nouvelle rencontre, Maud, essayer de clore un cycle de 6 émissions, c'est la 6e, où nous abordons cette question des charismes de l'homme et de la femme, ces particularités de l'un et de l'autre, qui fait qu'ils sont tout à fait complémentaires et que nous devons faire fructifier dans la vie conjugale, mais aussi que le Seigneur, au travers de son œuvre de création et aussi de rédemption, vient comme réveiller et dilater en nous. Et aujourd'hui, nous allons davantage aborder cette question de la communion, complémentarité des charismes homme-femme, alors que pendant les 5 dernières émissions, nous avons davantage abordé cette question du charisme de l'un ou du charisme de l'autre.
Voilà, et en Christ, cette humanité est complètement restaurée, puisque nous avons vu comme le péché avait dénaturé l'homme et la femme, et puis les avait aussi atteints dans leur dignité respective. Et le Christ qui vient reprendre cette malédiction originelle, cette blessure originelle, ce serait plus juste de dire comme ça, il vient nous permettre de retrouver la plénitude de notre humanité. Donc, nous allons commencer par ce petit texte de Romains qui resitue la grâce du salut du Christ pour l'humanité.
Si par la faute d'un seul homme, Adam, la multitude est morte, combien la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Nous avons donc été ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ ressuscité des morts, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle.
Voilà, ce texte a été très souvent un point d'appui, ou en tout cas l'idée qui est développée a été reprise très souvent par Jean-Paul II, qui disait comme l'Église était à la suite du Christ experte en humanité. Experte en humanité, c'est parce qu'il n'y a aucun espace, si je puis dire, de l'homme qui n'ait été exploré par cette révélation, ce salut que le Christ nous donne. C'est l'homme parfaitement réconcilié dans sa plénitude et c'est lui qui va nous permettre de rentrer dans cette nouvelle compréhension des rapports entre l'homme et la femme. Et à ce sujet-là, si vous avez le temps de lire l'encyclique sur la dignité de la femme, toute la première partie est justement réservée à ce nouveau regard de Jésus sur la femme, dans l'Évangile notamment, qui vient remettre à sa place l'égalité homme-femme que peut-être la culture avait abîmée, si je puis dire, par rapport à la vision de la Genèse. Dès l'origine, l'homme et la femme ont été faits pour être vis-à-vis, face à face, l'un complétant l'autre, l'un aidant l'autre, et l'un enfantant l'autre à sa vocation. Et ça a été aussi touché par le péché. Donc en Christ, nous pouvons retrouver une autre façon d'avoir une relation homme-femme.
Voilà, et c'est là où il est très important de bien comprendre combien le Christ, sauveur de l'humanité, vient restaurer en nous nos charismes spécifiques d'hommes et de femmes qui sont renouvelés, qui sont recréés. Et Jean-Paul II insiste beaucoup pour que dans le cadre du mariage, justement, nous puissions accueillir la rédemption pour que nous retrouvions cette grâce, entre guillemets, des origines, qui n'est pas un retour en arrière, mais qui est l'accueil du dessein éternel sur l'homme, sur la femme, sur le couple. Mais pour retrouver cette grâce originelle, conjugale, il nous faut retrouver aussi cette grâce spécifique en tant qu'homme et en tant que femme.
Rappelons-nous, au début de la Genèse, nous avions bien souligné comme l'image de Dieu était faite de cette communion entre le masculin et le féminin. Et on disait bien qu'il y avait communion et non rapport de force. Et c'est parce que la blessure du péché a troublé cette communion qu'alors nous avons altéré l'image de Dieu. Or, n'oublions pas, la vocation de l'homme et la femme dans l'amour, c'est d'être visage de Dieu, parce que c'est cette complémentarité des contraires dans la communion qui est le signe de la présence de Dieu et le signe de notre appel à manifester que l'amour rend possible la communion des contraires.
Rappelons-nous, quand la création n'était pas abîmée par le péché, l'homme et la femme, chacun était pleinement image de Dieu. Et le couple aussi était image de Dieu. Enfin, il l'est toujours. Mais cette nature originelle a été voilée par la nature, je dirais, déchue, telle que décrivent les pères, cette nature comme, voilée, torturée, déviée par le péché. Et tout l'œuvre de Christ, c'est de restaurer la plénitude de cette nature originelle, à la fois au niveau de la personne et à la fois au niveau du couple. Et c'est pour ça que les deux figures sur lesquelles nous avons longuement médité lors de la dernière émission, avec Marie d'un côté et Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, comme dit le Christ, nous avons médité sur ces deux grandes figures à la suite des quatre émissions précédentes où nous avons médité sur les grandes figures charismatiques, bibliques, à la fois de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Et c'est pour ça que l'Église indivise, notamment nos frères orientaux, orthodoxes ou des églises orientales, en communion avec Rome, nos frères d'Orient, chrétiens, ont longuement médité, pour eux c'est très important, cette icône de la déisis. Quelle est l'icône de la déisis, Maude ?
L'icône de la déisis, c'est une icône qui récapitule un peu toute, l'imagerie du salut, où on voit le Christ en gloire, entouré de Jean-Baptiste et Marie, qui sont les premiers à être à ses côtés. Et puis après, tout autour, il y a les anges, les saints, les martyrs, les prophètes, les docteurs, et puis le royaume des cieux, et puis évidemment les ténèbres qui sont en dessous des pieds du Christ. Donc cette grande icône est comme une sorte de fresque sur le chemin que l'humanité doit prendre pour retrouver la plénitude de sa dignité. Et ça, c'est encore une idée très chère à Jean-Paul II que je trouve très belle. C'est qu'il dit qu'à chaque fois que la communion de l'homme et de la femme n'est pas juste et ne se réalise pas, qu'il y a par exemple domination de l'homme sur la femme, comme on voit dans énormément de situations et de réalités, qu'il y a eu des combats tout à fait justifiés pour éviter ce genre de situation pervertie. À chaque fois que c'en est le cas, l'homme, comme la femme, perd de sa dignité. Et si nous restons sur cette idée de la dignité humaine, la contemplation de cette icône nous montre le chemin pour aller vers une dignité restaurée dans le visage de Marie et de Jean-Baptiste, entourant l'homme par excellence au sens de l'humanité qui est Jésus. Donc en fait, on retrouve un petit peu dans l'icône, Alex, que c'est comme si on avait la description de la Genèse, mais complètement illuminée par le salut, voilà, restauré. Voilà. Donc à la création, on partait de l'être humain qui se séparait en homme-femme et puis qui après se prolongeait dans l'humanité. Et dans l'icône de la déesse, on voit l'humanité qui est autour de l'homme
derrière
et de la femme.
Marie et Jean-Baptiste, autour du Christ, voilà. Deux figures fondamentales, et toute l'humanité dans l'iconostase qui est comme qui va derrière Marie et Jean-Baptiste, tournée vers le Christ. C'est voilà. Pour ça que nos frères, donc chrétiens d'Orient, parlent de Marie et de Jean-Baptiste comme deux archétypes de la masculinité et de la féminité, et que tous les deux sont tout à fait associés dans l'œuvre de la rédemption. Tout converge avec l'un et l'autre vers la croix, passage à la nouvelle vie. Voilà, la Vierge vit ce mystère qui s'enracine dans la croix. Un glaive te transpercera le cœur, avait prophétisé le vieux Siméon. Et pour Saint Jean-Baptiste, cette croix, il la vit déjà par son martyre. Et donc c'est des prophètes, et l'un et l'autre, par le martyre et par la prophétie du vieux Siméon, déjà des prophètes de la croix et du mystère de la rédemption, passage de la nouvelle vie. Et puis voilà. Ils sont unis aussi dans le mystère eucharistique.
Voilà, nous en avions déjà évoqué la semaine dernière, mais effectivement, l'un et l'autre contemplent le Christ comme agneau de Dieu et comme celui qui va donner son sang. Et l'un et l'autre nous rappellent que les deux voies pour aller vers Dieu, c'est dans le mystère pascal, le pain et le vin, symbole de la grâce et de la connaissance.
Parce que la Vierge se penche vers Jésus en soulignant « ils n'ont plus de vin ». À Cana, et donc elle désigne déjà, elle annonce déjà le mystère eucharistique, tandis que Jean parle « voici l'agneau de Dieu ». Donc ils annoncent ce mystère pascal. Voilà, et comme Adam était dissocié en Adam et Ève, voilà, de même, cette humanité est comme régénérée, se régénère par deux symboles que sont ces pôles masculins et féminins de la Vierge et de Jean-Baptiste. Voilà, c'est vraiment cette à leur suite que nous redécouvrons nos charismes hommes-femmes et cette communion entre l'homme et la femme. À tout de suite. Voilà pour méditer sur la complémentarité charismatique de l'homme et de la femme. Nous avons vu combien Marie et Saint Jean-Baptiste étaient comme les archétypes de l'homme et de la femme restaurés par le Christ. Et nous allons, Maude, davantage méditer justement sur cette complémentarité que vient restaurer le Christ par son œuvre de rédemption.
Voilà, depuis la chute de Genèse 3, comme on en a souvent parlé, la relation homme-femme a été dénaturée et au lieu d'avoir une complémentarité harmonieuse, une coïncidence des différents charismes, il y a plutôt des contraires qui se crispent, des luttes, des difficultés à se comprendre, tant et tant d'ouvrages de nos temps, de notre époque, relatent cette différence fondamentale qu'il y a entre un homme et une femme, disons plutôt un pôle masculin et un pôle féminin. Parfois c'en est drôle, parfois c'est carrément tragique. Et en tout cas, si jamais c'est si difficile de trouver la complémentarité, c'est parce que justement nous avons besoin du Christ.
Voilà, et donc nous avons à rentrer, pour trouver l'harmonie, nous avons rentré dans cette intelligence spirituelle de cette image de Dieu qui est inscrit en nous, et dans l'un, et dans l'autre. Et donc, c'est dans le Christ que nous avons à trouver cette unité et cette complémentarité dans le masculin et dans le féminin.
Pour trouver cette unité déjà entre les deux, nous avons à travailler sur notre propre unité individuelle. Chaque homme et chaque femme doit être uni intérieurement. Et c'est un travail, je dirais, de conversion pour laisser le Christ nous révéler ce que nous sommes. Et il y a donc pour chacun d'entre nous d'abord à découvrir notre identité personnelle et à nous épanouir dans ce que nous sommes. Et ensuite, nous avons à travailler par l'amour à l'unité des deux.
Voilà, c'est vraiment l'amour qu'il y a entre l'homme et la femme qui fait que justement cette complémentarité va au fur et à mesure s'ajuster et se déployer.
Absolument. Et au lieu de parler sur un registre « Ah, tu n'es pas comme moi, tu ne me comprends pas », c'est plutôt « Puisque tu es différent, tu vas pouvoir voir les choses autrement et à deux, nous aurons certainement une vue plus juste. » C'est comme une vision avec deux yeux. Elle est certainement plus proche de la réalité que si nous n'avions qu'un œil. Et mais si nous n'arrivons pas à nous servir des deux yeux et que chaque œil se plaint de ce que l'autre ne voit pas tout à fait comme lui, ça peut durer très longtemps, la dispute, mais ça ne mènera pas à avancer vers la vérité de ce qui se vit.
Voilà, puis dans cette découverte de nos charismes respectifs en tant qu'hommes et femmes, il ne faut pas non plus tomber, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on le répète ici, dans des caricatures, tous les hommes sont comme ci, ou toutes les femmes sont comme ça. Nous déployons, s'il y a des pôles masculins et féminins, il peut y avoir des charismes féminin qui se développe chez l'homme et inversement. N'a-t-on pas, par exemple, parlé de la virilité d'une Sainte Thérèse d'Avila ou de la sensibilité féminine d'un Saint François d'Assise? Voilà, et donc, je crois aussi qu'il faut rentrer dans les dons singuliers que peuvent porter l'un et l'autre. Et donc, nous avons chacun à essayer, effectivement, et c'est aussi toute l'œuvre d'une vie conjugale, et c'est aussi tout le chantier d'une vie conjugale, c'est de découvrir justement nos charismes spécifiques d'hommes et de femmes, de Pierre, Paul, Jacques, de Judith, Angélique et Jacqueline, et de Maud et d'Alex, voilà, de découvrir ce que le Seigneur a mis d'unique en chacun.
D'ailleurs, je trouve que c'est une des choses passionnantes dans la vie de couple, c'est que par l'amour, nous sommes appelés à épanouir les qualités spécifiques de notre conjoint et ses charismes spécifiques. Et c'est vrai qu'il est très beau quand maintenant que nous avons quand même un certain nombre d'années de mariage, au bout de 25 ans, sans compter les années de fiançailles, nous arrivons maintenant à presque 30 ans de vie partagée, à pouvoir dire et sentir ce qui est vraiment la grâce de l'un et de l'autre. Et du coup, nous appuyer dans des circonstances adaptées sur plutôt l'un ou plutôt l'autre, parce qu'on sait que c'est son point fort ou que, au contraire, il est plus apte à discerner l'esprit, l'appel de l'esprit à l'intérieur d'une situation. Voilà, c'est en s'appuyant l'un et l'autre, l'un sur l'autre, que nous arrivons à épanouir notre complémentarité de couple. Et je trouve que c'est une expérience absolument passionnante.
Alors, justement, essayons un peu de formuler, même si c'est fait très rapidement, les charismes de l'un et de l'autre, plus particuliers, en tout cas le pôle dominant qu'il peut y avoir chez l'un et chez l'autre. Donc, moi, peut-être commencer un peu par, justement, essayer de rassembler un peu ce qui peut être le charisme davantage de l'homme.
Voilà, alors l'homme, on l'a dit, sa première mission, c'est celle de travailler la terre, donc de pétrir, maîtriser le monde dans lequel il habite, d'utiliser tout ce qu'il y a en lui de créatif, de réalisateur, de bâtisseur pour sa subsistance, pour celle des siens. Pardon, bien sûr, nous l'avons souligné aussi, c'est au prix de la sueur de son front, mais en gardant aussi comme objectif, et ça je pense que Benoît XVI nous le rappelle particulièrement ces derniers temps, en gardant la vision que la terre appartient au Créateur, elle appartient à tous et que nous devons rentrer aussi dans cette intelligence et ce respect de la création et de ce que nous faisons. Et que notre travail, et ça c'est une conversion sans cesse à acquérir, que notre travail est au service de notre humanité et pas l'inverse.
Alors la femme, bien sûr, est complètement associée à cette œuvre dans la création de transformation du monde, mais elle va coopérer et aider de manière singulière, parce que vraiment est inscrite dans son cœur toujours ce souci de discerner l'appel et la présence de Dieu, à dépasser le simple plaisir ou la seule satisfaction de l'action, ou la reconnaissance sociale, publique, etc., mais toujours être attaché à la question du sens, de ne pas s'arrêter à la question du pouvoir, de l'argent ou du plaisir, etc., mais toujours être en recherche du sens des choses. Oui. Donc elle rappelle à l'homme et à l'humanité toujours sa vocation première. Il faut transfigurer notre vie, il faut faire de notre travail une offrande, une action de grâce, il faut savoir pour qui, pourquoi nous faisons les choses.
Et c'est pour ça qu'elle est souvent relativement en attente de tout ce qui est relation humaine, de tout ce qui est contact, de tout ce qui est échange, de tout ce qui est parole partagée, et qu'elle va solliciter l'homme pour qu'il puisse aussi lui rentrer dans cette dimension qui est essentielle à la vie, tout simplement. Et qu'on sait très bien que métro, boulot, dodo, ça n'a jamais été l'épanouissement d'une vie. Et ce qui fait la beauté d'une vie, c'est tout l'amour échangé et l'amour donné, et la femme va s'épanouir plus facilement dans ce domaine-là. Et c'est vrai que l'enfantement fait évidemment partie de ce travail, je dirais, de cet appel spécifique de la femme, mais qu'elle introduit l'homme dans cette notion aussi de la paternité et de la maternité, qui est bien sûr plus évidente pour elle, mais elle a besoin de cette complémentarité de l'homme.
Et alors vraiment, il y a ce ministère très particulier, comme naturel, plus spontané chez la femme, de l'intercession, de la prière, d'une parole libre qui va rappeler l'essentiel à son homme, qui va prier pour cet essentiel. Et vraiment, la femme a ce ministère d'être comme une garde un peu au cœur de l'homme, qui peut-être où nous avons plus de facilité à avoir un cœur dur qui peut heurter et qui peut, se laisser enfermer dans l'égoïsme, dans l'enfermement, dans le silence. Je veux dire, ça c'est vraiment un de nos gros problèmes. On ne sait pas parler, on ne sait pas exprimer ce qui nous habite, ou à un moment nous ne sommes pas insensibles, mais peut-être que nous verrions un peu notre cœur. Et vraiment, c'est cette vigilance, ce ministère de la femme qui est toujours à rappeler à l'homme qu'il faut qu'il sorte de lui-même pour nommer, pour exprimer, pour partager, pour discerner, pour qu'il puisse décider, puisque souvent à un moment les actes, parfois à un moment de partir à droite, de partir à gauche, va être porté par l'homme davantage dans telle ou telle situation, mais que pour le faire, il faut vraiment qu'il soit éclairé. Il soit éclairé par le sens profond des choses, qu'il puisse écouter le Seigneur, alors qu'il aurait plutôt proportion à écouter que lui-même et à ne pas lire le fond des choses.
Oui, d'ailleurs, c'est des petites anecdotes qui m'amusent toujours dans la sagesse de nos frères aînés, les Juifs. Ils considèrent que parfois les femmes n'ont pas besoin d'aller aux liturgies obligatoires parce qu'elles prient spontanément. Et combien de fois nous avons constaté que les femmes prient beaucoup plus spontanément que les hommes, et elles sont là aussi pour être, des réservoirs de prière. Mais l'homme doit aussi apprendre à écouter sa femme quand elle a des choses à dire, et c'est parfois difficile pour l'homme d'écouter sa femme parce que elle a aussi des excès, et parfois elle délire aussi un peu dans son dialogue intérieur. Donc il y a tout un équilibre à trouver, mais ce que je dirais vraiment comme appel fondamental, c'est de trouver cette complémentarité des charismes pour que chacun permette d'enfanter l'autre à la plénitude de sa vocation, à la plénitude de ce qu'il est. Et que chacun est la porte étroite de l'autre, c'est-à-dire le chemin privilégié pour grandir, pour croître dans ma conversion. Cet ajustement, il est difficile, il est douloureux, il passe par le courage de la vérité, mais quand on arrive à passer des étapes à deux, c'est extraordinaire, la jubilation qu'on a de pouvoir vivre notre vie quotidienne en complémentarité.
C'est sûr que c'est une lutte incessante, un travail de conversion, de s'écouter, de se respecter, et à la fois tout en en dilatant son propre charisme. C'est un travail de toute une vie, et c'est pour ça que le mariage est une si fantastique aventure, car au fur et à mesure, même si jamais le Seigneur écrit droit dans nos vies, avec des lignes parfois très très courbes, en raison de notre péché et de notre incapacité à écouter, mais au fur et à mesure, nous grandissons dans cette harmonie charismatique de l'homme et de la femme, et ça c'est un don merveilleux du Seigneur, un chemin d'amour et de bonheur. En tout cas, c'est tout ce que nous vous souhaitons de bénédiction de la part de Dieu. Voilà, époux et épouse qui nous écoutez avec peut-être 6 mois de mariage ou peut-être 50 ans de mariage, nous souhaitons vraiment pour tous et chacun que nous puissions grandir dans ce don merveilleux du Seigneur, cette harmonie charismatique de ce que nous sommes. Que le Seigneur vienne nous bénir.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit. May the grace of the Lord be with you. Now and always may you stay. Blameless till he comes. May the love of the Lord be with you. Now and always may you stay. Blameless till he comes. Amen.